Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Nicolas Dautricourt. Nicolas Dautricourt, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, vous êtes bien sûr violoniste. Je vous reçois l'occasion d'un double événement, c'est-à-dire la parution d'un disque avec un programme rare, quand même partiellement très méconnu, inconnu pour nous, de l'œuvre pour violon et orchestre et l'œuvre pour violon et piano de Sibelius. Et puis, à l'occasion de la parution de ce disque, vous donnerez un concert aux côtés de plusieurs musiciens qu'on va évoquer le 7 décembre prochain dans cet écrin qu'est le Ranelagh. Alors, ce disque Sibelius, c'est un répertoire. Bon, alors, bien sûr, il y a le concerto pour violon qui est un des chevaux de bataille de tous les violonistes et j'imagine que vous jouez. Mais alors là, vous abordez un répertoire qui est très très rare, il y a plusieurs humoresques, il y a des sérénades pour violon et orchestre, et puis il y a des pièces pour piano et orchestre. Vous êtes, alors, en ce qui concerne les œuvres pour violon et orchestre, aux côtés de l'Orchestra Vigo 430 sous la direction, alors je vais massacrer son nom, de Alessandro Garrido Porras, chef espagnol. Et puis pour ce qui est des œuvres pour violon et piano, aux côtés, je vais aussi massacrer son nom pour d'autres raisons, Juho Ponjonen, qui lui est finlandais. Donc vous avez choisi des Espagnols pour l'orchestre et un Finlandais pour le piano, c'est quoi, c'est des circonstances?
Alors oui, en fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit en premier, effectivement, bon, ça fait quand même une dizaine d'années, ça faisait une dizaine d'années que je n'avais pas enregistré. Je ne parle pas de projets annexes et de choses qui n'émanaient pas de ma propre volonté, mais que j'ai fait avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, hein, des sonates de Ropart, des de Schoenberg, tout ça. Mais là, c'était vraiment mon projet que je n'avais pas mené à bien depuis une dizaine d'années. Et puis en fait, oui, effectivement, c'est un choix artistique et puis un choix un peu stratégique aussi. Artistique parce que ces pièces me touchent profondément, elles me parlent, j'y trouve un plaisir immense entre légèreté et densité, un univers assez spécial et très singulier. Et puis en fait, effectivement, le fait qu'elles ne soient pas beaucoup enregistrées, ça m'arrangeait bien parce que je pense que c'était une manière, non pas de se distinguer pour se distinguer, mais disons qu'effectivement, est-ce qu'on avait besoin d'une 192e version du concerto de Sibelius ou que sais-je, d'autres choses, je ne suis pas sûr. Bon, même si je pense que les musiciens vivants, j'allais dire, et qui vont sur scène, doivent enregistrer des grands canons du répertoire, ça c'est... ça participe d'une autre discussion sur le disque en général, mais en tout cas, moi, voilà, j'avais à cœur de faire, enfin, découvrir, c'est un grand mot, parce que, voilà, mais ça a quand même été enregistré un petit peu, mais j'avais à cœur de m'associer à ces œuvres-là et de m'identifier à travers ces œuvres-là. Et puis ensuite, bah, c'est une histoire de copain, en fait, ce disque, parce que Alejandro Garrido Porras, donc c'est avant d'être un très bon chef, c'était un très bon altiste aussi, avec qui j'ai fait mes études au Conservatoire de Paris il y a une vingtaine d'années. J'allais dire 10 ans, non pas du tout, c'est vraiment 20 ans. Et il a pris la tête de cet orchestre il y a 5-6 ans à peu près, et ils m'ont invité pour faire un concerto qui s'est très bien passé, et du coup, bah, j'ai eu envie de mener à bien ce projet avec cet orchestre qui est très bon, mais j'allais dire facile à manœuvrer, modeste dans un sens, au sens logistique du terme, avec lequel on a pu travailler bien, efficacement, sans d'avoir nécessairement besoin de faire attention à l'heure qui tournait. On a appris à se connaître, c'est beaucoup de jeunes, on a appris à se connaître, on a beaucoup enregistré, beaucoup travaillé, on a beaucoup fait la fête. C'est une histoire de copains. Et qui ne s'arrête pas là, puisque le pianiste qui est finlandais, comme vous l'avez effectivement dit, c'est un ami de pas de longue date, mais de quelques années, puisque nous jouons ensemble dans le cadre d'une résidence que j'ai à New York, donc au Lincoln Center, et donc on s'est rencontrés par ce biais-là, on a fait des festivals ensemble aux États-Unis et tout, donc ce sont des cercles en fait qui se mélangent et qui s'interpénètrent donc à travers ce disque, jusqu'à même, j'allais dire, l'ingénieur du son qui est japonais, qui s'appelle Kazuno Liceo et qui est un très bon ami à moi, qui est aussi un très très bon flûtiste et qui a participé à l'élaboration de ce disque pour la partie technique. Donc en fait, voilà, c'est ce qui peut-être me rend le plus heureux dans ce disque, c'est qu'il regroupe, alors pas tous, hein, j'ai d'autres amis, mais qui regroupe des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc c'est un succès, une satisfaction collective.
C'est étonnant parce que quand même ces œuvres, bon, il y a les deux humoresques Opus 87, moi je connaissais un enregistrement de Oistrakh, pour le reste les œuvres, les autres œuvres, soit les autres humoresques pour violon et orchestre ou les œuvres pour violon et piano, je connaissais quasiment rien. C'est quand même pas des œuvres d'un abord difficile pour l'auditeur, c'est étonnant que ce soit pas plus joué.
Bah, en fait je les ai joués la semaine dernière avec l'orchestre Poitou-Charentes et... En les retravaillant pour les concerts, je me suis dit, tiens, mais en fait, je comprends qu'elles ne soient pas souvent jouées. C'est en fait extrêmement difficile. C'est très, très, très délicat. C'est beaucoup, beaucoup plus... c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Parce que ça semble, effectivement, comme son nom l'indique, des œuvres d'aspiration assez primesautière, assez spontanée. Bon, effectivement, on garde cette fraîcheur, mais le procédé d'écriture est le procédé d'un grand compositeur qui n'est pas d'un petit compositeur pour violon ou d'un petit compositeur instrumental. L'orchestration, même si elle est légère, est extrêmement fine et elle est extrêmement choisie. Les orchestrations de ces humoresques d'ailleurs, c'est tantôt les cordes seules, tantôt les cordes mais divisées, chaque pupitre par trois, tantôt les cordes plus deux cordes et une timbale, après les vents par deux sauf la clarinette, enfin des trucs un peu bizarroïdes, très maîtrisés bien sûr, comme je l'ai dit. Et de fait, l'approche du violon est aussi très singulière et nécessite une grande technicité. Alors, tout ça pour répondre à ce que vous disiez, qui est que je comprends que ce ne soit pas si souvent joué parce que c'est difficile à mettre en place, et c'est difficile à bien faire. Voilà. Et donc, ça abonde dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour enregistrer ces pièces, j'avais besoin donc d'un orchestre qui soit malléable, qui soit à l'écoute, qui ne regarde pas la montre, qui soit dans la passion, et c'est ce que j'ai eu la chance de trouver.
Enfin, on peut dire aussi que tout votre répertoire est difficile. C'est quand même quand vous jouez une sonate de Mozart, c'est extrêmement difficile. Enfin, tout est difficile. Donc, on se demande pourquoi ces difficultés de ces œuvres que vous évoquez empêchent qu'elles soient aussi connues que d'autres qui ne sont pas forcément aussi géniales.
En fait, oui, elles sont difficiles, elles sont ingrates aussi. Et puis, elles sont dans un langage qui est... Vous parliez de sonates de Mozart, elles n'appartiennent pas vraiment, véritablement à un style, parce qu'on est, dans une période, enfin, au début du siècle, où beaucoup, beaucoup de courants s'affrontent, des courants artistiques, et Sibelius, d'une certaine manière, comme certains autres, mais finalement assez peu, représente une sorte de fleur des champs, quoi, une sorte d'îlot, une sorte de météorite comme ça, un petit peu qui ne connaît pas d'école, qui ne connaît pas d'héritage. C'est un grand mot parce qu'il a admiré évidemment la seconde école de Vienne, les grands romantiques, donc il était tout à fait conscient de ce qui se passait autour de lui, mais son langage n'appartient qu'à lui. De fait, peut-être que l'écoute, même si ça reste de la musique très accessible, l'écoute est certainement moins satisfaisante, je le dis dans un sens de bien-être, que le langage galant que vous évoquiez tout à l'heure, ou le langage impressionniste, pour rester dans la même époque, qui est peut-être plus identifiable. Là, on est dans quelque chose, encore une fois, d'assez difficile à rattacher à quoi que ce soit, une sorte voilà de peinture un petit peu abstraite et qui ne peut s'associer à rien d'autre, quoi.
C'est vrai qu'il y a un côté très sombre, hein, de certaines pièces. Elles ont beau s'appeler humoresques, il y a un univers, puis toujours cette gravité des cordes chez Sibelius, et puis il y a un côté un peu rauque du violon. Enfin, parfois ça évoque d'ailleurs le concerto pour violon. Il y a d'autres pièces, pour violon et piano, qui évoquent parfois Tchaïkovski ou un autre univers. Mais
c'est vrai que je vais parler comme les footballeurs avec des c'est vrai que ou des je pense que. Il faut faire attention à ça. Je dois reconnaître que les pièces pour piano, par exemple, sont d'une inspiration Pour moi, pas secondaire, mais je dirais les vrais chefs-d'œuvre de ce disque, ce sont les pièces pour violon et orchestre. Effectivement, elles sont dans une tonalité, comme vous l'avez dit, assez sombre, assez un univers comme ça relativement obscur avec des lueurs parfois qui éclatent de je ne sais où. En fait, elles symbolisent effectivement un paysage assez singulier, de grandes étendues, ça se matérialise en musique par des grandes tenues, des passages très très lents avec une approche très statique en fait du discours musical, et puis avec quelques petits éclats comme ça qui arrivent de part et d'autre, et c'est une musique très figuraliste, très, enfin moi que je trouve très très singulière. Effectivement, donc cette partie avec piano s'apparenterait plus à des petits exercices de style emprunté au passé, une petite valse, une petite mazurka, au bad, je ne sais pas si ça figure d'ailleurs sur le livre, je ne me souviens plus, mais il y a comme ça une ribambelle de pièces pour violon et piano qui feront peut-être l'objet d'ailleurs d'un autre enregistrement, allez savoir, mais dont l'inspiration est peut-être moins noble, enfin bon, voilà, ce n'est pas pour rétablir de hiérarchie, mais moi, ce qui a été vraiment, ce qui a décidé la réalisation de cet enregistrement, ce sont effectivement les humoresques, et puis toute la partie avec orchestre, quoi, voilà, les sérénades qui se jouent avec grand orchestre et qui sont encore une fois formellement, linguistiquement, harmoniquement tout à fait étranges, mais qui invitent à une autre forme d'écoute, certainement, peut-être.
Alors Nicolas Dautricot, vous parlez linguistiquement, donc il y a les œuvres pour piano et violon, vous les jouez aux côtés d'un pianiste finlandais, Juho Ponionen, dont on sent qu'il est formidable et que vous aimeriez bien qu'il soit plus connu en France. On va en parler, notamment à l'occasion d'un concert que vous donnerez le 7 décembre prochain. Mais justement, est-ce que lui, on ne peut pas dire qu'un Français joue mieux Debussy qu'un Russe, etc. Mais il y a une proximité du langage, c'est-à-dire qu'un Hongrois qui joue Bartok, il va être tout de suite dans une proximité de langage. Est-ce que lui, en tant que Finlandais, justement, il vous a amené à saisir un langage qui pouvait vous échapper ou alors qui vous était moins familier?
Alors, la question est tout à fait pertinente. En l'occurrence, je pense que effectivement, dans le cas de Bartok, puisque vous l'évoquiez, effectivement, la musique de Bartok, elle se rapproche. Bon, c'est très trivialement dit, mais si on veut le circonscrire en quelques mots, elle se rapproche beaucoup de la parole, en fait. Il y a dans la musique de Bartok presque des consonances parlées, quoi, si on peut dire. Dans la musique de Sibelius, beaucoup moins. Enfin, la musique de Sibelius est beaucoup moins proche du traditionnel, du folklore, me semble-t-il, hein, que les musiques d'Europe centrale, par exemple. Alors, je dis ça, évidemment. Il y a notamment dans le concerto des citations de musique traditionnelle, de musique folklore, je crois même que la mélodie et vraiment tire son origine de vraiment du terreau même, voilà, de la Finlande profonde. Bon, moi je c'est pas que j'ai pas exploré la question, mais en fait, je pense que hormis quelques citations, peut-être, je pense pas que ce soit l'argument majeur de ces œuvres. Pour répondre à votre question, en fait, fut un temps effectivement quand les musiciens voyageaient moins, ils étaient effectivement plus spécialistes de la musique de leur pays. Moi, je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut être français et jouer très très bien la musique germanique ou que sais-je, la musique espagnole, voilà. Et à l'inverse, j'ai la chance de beaucoup voyager et je vois autour de moi, dans les pays étrangers, des musiciens magnifiques qui expriment leur talent, que ce soit dans la musique de leur pays ou d'une autre. Donc bon, voilà, en l'occurrence, Juho, il aime bien ses pièces, il est j'ai pas eu le sentiment qu'il en était complètement dingue non plus. Les petites pièces qu'on a jouées ensemble, plus 81, bah il a énormément de qualité. C'est pour ça qu'il est là, puis que j'espère qu'il reviendra au disque avec moi, ou tout seul d'ailleurs. Mais non, j'ai pas noté de filiation particulière, d'appartenance particulière à la musique enfin à cette musique-là en particulier. Mais encore une fois, je vous dis, les pièces qui nous ont rassemblés là dans ce disque, elles sont quand même très spécifiques. Et franchement, si on ne sait pas que c'est du Sibelius, on a du mal à deviner. Voilà.
Alors justement, vous parlez de Juho Pojonen. Il sera à vos côtés le 7 décembre prochain dans un concert que vous donnerez à l'occasion de la parution de ce disque qui vient de paraître chez la Dolce Volta, un disque consacré exclusivement à Sibelius. Alors là, ce sera un concert avec d'autres compositeurs. Vous commencez par une sonate pour violon et clavier de Bach qu'il jouera lui au piano. On connaîtra le choix lors de ce concert, et puis sera suivi d'un programme extrait de ce disque, enfin des humoresques opus 87, 89, et puis la suite opus 117 de Sibelius, donc des œuvres pour violon et orchestre qui seront jouées avec un quatuor et une sorte de formation plus réduite, Nicolas Dautricourt.
Voilà, l'idée de ce concert, c'est que la première partie rassemble effectivement une partie des œuvres qui figurent sur le disque, les humoresques, et puis la petite suite pour cordes. L'idée, c'est de donner évidemment la couleur l'imprégnation de ce langage. On va, j'allais dire, faire entre formule originale et un petit peu de transcription là-dessus pour que ça s'harmonise bien et tout, parce qu'on dispose pas d'un orchestre complet pour ce concert. Donc voilà, on va faire des assemblages judicieux pour que justement ça se rapproche le plus de l'original. Ma partie évidemment reste inchangée, bien sûr, ça va sans dire. Et puis, pour commencer le concert, il y aura du Bach, parce que Bach, de toute façon, je c'est pas très original. On en parlait hors micro tout à l'heure, mais on s'en plaint jamais. Et puis, moi, je suis très, 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 très attaché aussi à ses œuvres. D'ailleurs, sonate violon-piano, enfin, violon-clavier, comme vous disiez, on n'est pas. Elles ne sont pas très présentes au disque, et pour des raisons que je trouve illégitimes. Donc, je me dis, bon. C'est l'occasion aussi d'annoncer la couleur d'une certaine gravité, une certaine, bon, c'est malheureusement de circonstances, mais d'une beauté pure comme celle-là. Donc Bach, Sibelius pour la première partie, et il y aura en deuxième partie une sonate de Scriabin, dont on fête également l'anniversaire, tout comme Sibelius. Donc une sonate de Scriabin jouée par Juho Pojonen, donc la deuxième sonate. Et puis il y aura ensuite Porgy and Bess Revisited, qui est un extrait donc, de ce projet que je mène avec deux amis, deux très bons amis, Pascal Schumacher, vibraphoniste qui nous vient du Luxembourg, et puis Knut-Erik Sundqvist, qui est un contrebassiste norvégien. Donc ils sont de la fête tous les deux, voilà, pour qu'on revisite Porgy and Bess. Et puis le concert se terminera par le Sirba Octet. Auquel je me joindrai peut-être un petit peu à la fin, et Sirba Octet, qui sont des personnes formidables que j'aime beaucoup, à la scène comme à la ville, si je puis dire. Et donc je suis content de ce programme parce qu'il réunit que des gens que j'aime, et j'ai oublié de dire qu'en première partie les musiciens qui m'accompagneront donc seront le quatuor Capriccio, des amis aussi, voilà, qui viennent des orchestres parisiens.
Alors donc, concert donné à l'occasion de la parution, Nicolas Dautricourt, de ce disque consacré à Sibelius. Vous disiez l'anniversaire, on ne peut pas dire qu'on l'ait tellement fêté en France. Que ce soit non plus Scriabin, on ne peut pas dire qu'il était tellement célébré cette année à la mesure de leur génie. Mais c'est vrai que quand on écoute cette musique de Sibelius, qui est composée dans les années 1915-1920, on comprend aussi que c'est une musique qui a eu du mal à se situer, parce qu'elle apparaît au moment où Schoenberg, enfin il y a le Pierrot lunaire et tout, et puis donc c'est quand même une musique qui est hors du temps, enfin qui s'inscrit dans un génie, mais qui est difficile à qualifier. Donc, et puis en plus, il était tellement traîné dans la boue en France par certaines écoles, ça a dû nuire aussi.
Ah oui, il a même été Il a même été qualifié par, mais je crois, je sais plus, c'est Leibovitz ou Goléa, non, je sais plus, l'un des deux, qui a dit que c'était le plus mauvais compositeur du monde. Alors que de grands chefs d'orchestre comme Karajan ou Mary Sansons disent que c'est le plus grand. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est sûr que la mission, j'allais dire, de Sibelius, enfin, en tant que musicien, elle a été relativement précoce. Elle était de vrai pour la, pour, enfin, de vrai, oui, de façon très militante pour l'indépendance de son pays. Il compose Finlandia dans ce sens. Il le fait voyager, l'exposition universelle, tout ça. Il représente la Finlande. Enfin, il est vraiment le porte-drapeau, quoi, de cette Finlande occupée, si l'on peut dire. Et donc, il sera un des acteurs centraux de cette indépendance qu'elle finira par acquérir en 17. Donc, mais effectivement, on ne peut pas dire, puisqu'on parlait de Scriabine, par exemple, qui est l'exact opposé, qui n'a eu, qui n'a finalement, au fil de sa production, c'est pas du tout pour les comparer, hein, parce qu'ils sont pas du tout comparables. Mais il y a des compositeurs comme ça qui ont, dont la mission, l'objectif est de faire évoluer leur langage en constamment et de le faire. De le tourner vers l'avenir et de le transfigurer à l'infini. Et j'ai pas le sentiment que c'était ce de quoi Sibelius était investi pour sa propre musique. Et est-ce que c'est ce qui a fait que qu'à un moment il s'est arrêté, enfin est-ce qu'il a fait qu'à un moment il s'est retrouvé peut-être à court de, j'en sais rien, aller savoir, de jus, de motivation, d'envie, je sais pas, puisque rappelons qu'il a pas composé, enfin il s'est arrêté de composer à la fin des années 20, donc du coup ça fait, comme il est mort en 57, ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Enfin, il y a eu plein de choses, hein, mais plein de raisons certainement qui l'ont amené à faire ça, mais en tout cas c'est sûr que dans son langage il y a la revendication d'un certain romantisme, et encore une fois j'aurais du mal, bon de toute façon je trouve que poser des mots sur la musique c'est toujours très dangereux, mais j'aurais effectivement du mal à la décrire, et même dans ses humoresques qui sont assez facilement cernables. Même en les travaillant, en les jouant, je me dis tiens, pourquoi c'est beau, pourquoi c'est singulier, pourquoi c'est et en fait j'ai du mal à trouver, j'ai le sentiment parfois qu'il y a des choses, j'ai l'impression que Sibelius est un petit peu la musique des extrêmes, quoi, voilà, avec des plages extrêmement statiques, et comme on l'a dit tout à l'heure, des plages de contemplation, comme certainement, quand on a affaire à l'immensité, quand on est dans ces pays-là, par là-bas et tout ça, des espèces de paysages qui n'en finissent plus. Affaire à un matériau d'une grande unité comme ça, et qui me dépasse un petit peu. Et puis parfois, une grande fulgurance, une agitation d'un coup. Ça commence par du vent dans les feuilles, et puis ça s'emballe et ça part complètement. C'est une musique pour moi, enfin que je trouve, j'allais dire excessive, c'est pas du tout même le bon mot, mais une musique qui est faite de grands contrastes comme ça. Donc ça participe peut-être de l'explication, mais c'est pas la seule évidemment.
Nicolas Dautricourt, c'est un peu paradoxal parce que c'est un disque qui paraît chez un label, il s'appelle Dolce Volta, qui est un label qui sort assez peu disques. Chaque objet est très soigné, chaque objet disque. Puis vous êtes aux côtés d'illustres aînés comme Menachem Pressler ou le regretté Aldo Ciccolini ou quelques autres, et puis le Quatuor Talisch, enfin, etc. Donc vraiment, tout le monde est en belle compagnie. C'est un magnifique objet, à la fois l'enregistrement, la manière dont c'est présenté. Et puis vous êtes interviewé dans le disque, et puis vous parlez du disque. On a l'impression que vous êtes heureux d'avoir fait ce disque, parce que c'est un répertoire que vous voulez faire valoir, et vous êtes très heureux de le faire, et nous, on est très heureux de l'écouter. En même temps, vous avez une réticence quand même par rapport à l'enregistrement. Vous dites c'est un peu la photo de ce qu'on voudrait être. Peut-être que je reflète mal votre pensée, mais... Mais moi, je vous connais comme musicien, je vous ai entendu beaucoup au concert. Et puis, on sent que le disque, quand même, pour vous, c'est très particulier.
Non, mais moi, j'aime bien que vous m'interrogez là-dessus, parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de très honnête et je dis ce que je pense. Et effectivement, je veux dire, l'objet qui en résulte est un bel objet. J'en suis très heureux, j'en suis très fier d'une certaine manière, et j'en suis heureux sur un plan artistique, sur un plan humain. Je suis heureux s'il rend des gens heureux, et c'est le cas. Donc voilà, je suis heureux de faire plaisir à mes amis, à ma famille, à des gens après les concerts, voilà, que sais-je, des personnes que je rencontre, que je reverrai jamais, des chauffeurs de taxi sympas, des vous voyez, c'est pour moi, je suis heureux de m'identifier à travers ce disque. Après, en fait, tout ce qui est, tout ce qui participe de l'élaboration d'un disque, ce sont plein de choses extrêmement prosaïques, mais c'est comme la cuisine, en fait. Si vous rentrez dans la cuisine de je sais pas, de Joël Robuchon, vous allez voir plein de choses que, j'allais dire, peut-être vous voulez pas voir, et on s'en fiche quelque part. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait on fait un disque pour toucher à une certaine perfection, et du coup pour que l'objet soit le plus parfait possible, qu'il soit pour accéder à cette perfection, on est obligé d'une certaine manière de sacrifier un petit peu le geste. Et en fait, de sacrifier le geste, parce que dans le geste il y a du risque, dans le risque il y a du ratage. Enfin, je veux dire, il y a des choses, qui sont pas forcément bonnes à prendre. Donc en fait, c'est un processus assez complexe qu'on doit recréer quand on fait le montage et quand on réécoute ce qu'on a fait. Et quand je dis que, effectivement, moi j'aime bien la formule de dire que le mariage, par exemple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul, en fait, enregistrer un disque, c'est parfois, je me dis, mais c'est parfois résoudre des problèmes que l'on ne rencontre jamais quand on est sur scène, parce que sur scène, on est porté par quelque chose qui est inhérent même au fait de au temps réel, au fait d'être devant des gens, et de on est porté par une flamme, par quelque chose de que l'on doit créer de façon totalement artificielle en studio. Donc post-production, quand on est en train de construire, de fabriquer le disque, de faire les montages et tout ça, on est en train de trouver cette flamme, d'essayer de chercher parmi les nombreuses prises, dès où on a peur, dès où on s'est raté parce qu'on pensait à autre chose, d'autres où on n'était pas là, d'autres où l'orchestre jouait faux, enfin que sais-je, voilà. On est en train de chercher la bonne prise parmi 15 ou 30, alors qu'en fait, s'il y en avait eu qu'une, elle aurait été certainement parfaite, quoi, vous voyez ? Donc en fait, c'est juste. Alors ça semble un peu cynique comme ça à dire. Moi aussi, ce que je souhaiterais dire, puisque en fait, peu sont les personnes qui me sollicitent sur ces questions-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la vérité, pour moi, elle se fait sur scène. C'est-à-dire que, en fait, ce disque n'a de sens que parce que potentiellement, on peut venir m'écouter sur scène. Voilà. Je trouve que, effectivement, alors c'est chouette parce que les gens qui viennent m'écouter au concert, du coup, ils achètent le disque, et ils revivent un petit peu ce moment présent, ils le revivent chez eux à travers ce disque. Mais en fait, pour moi, se contenter d'écouter des disques quand on est un mélomane, c'est une aberration. C'est une aberration. Je parlerai pas de déviance, mais disons que c'est une chose qui, je pense, aurait semblé totalement impensable il y a un demi-siècle, parce que la vérité, elle se fait sur scène. L'artiste n'est lui-même, vraiment lui-même, sans concession, que quand il est sur scène. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu que ce disque soit se rapproche le plus possible de ce qu'on peut entendre sur scène, c'est-à-dire que il est bien réalisé, hein, il y a pas de souci, voilà, mais c'est vrai que dans le choix des prises, par exemple, j'ai toujours privilégié ce qui me semblait être de l'ordre du geste, de la beauté du geste. Et parfois, ça peut être au détriment, c'est infime, hein, mais d'un petit truc technique et tout ça. Moi, je ne mets pas mon orgueil ou ma fierté là-dedans. Je suis beaucoup plus heureux de faire un disque qui ressemble à la réalité plutôt qu'un truc totalement aseptisé qui finalement est absolument pas reproductible sur scène. Donc voilà, le disque c'est beau, mais le concert c'est la vérité, quoi. Voilà.
Nicolas Dautricourt, j'essaierai de ne pas dire à ma femme ce soir ce que vous avez tenu comme propos sur le mariage. Mais enfin, je suis d'accord avec vous sur le fond de ce que vous dites sur le disque, effectivement, et sur le risque du concert. Et c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir annoncer à la fois la sortie de ce disque, la Dolce Volta, consacrée à Sibelius, à la fois pour violon et orchestre et pour violon et piano. Je vous laisserai annoncer les noms des autres interprètes, parce que moi je vais massacrer encore une fois les noms. Et puis il y a le concert du 7 décembre, justement, musique vivante. En même temps, le disque, bon, si on n'avait pas des disques de Rubinstein, Heifetz, Oistrakh, on serait bien malheureux aussi.
Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. Non, on ne serait pas malheureux. Non. Parce qu'on aurait plus... Non, alors il faut qu'ils existent, bien sûr, ce sont des musiciens magnifiques, enfin, c'est même totalement trivial de le dire, mais non, on ne serait pas malheureux parce que... Enfin, on ne serait pas malheureux parce que les musiciens d'aujourd'hui, eux, seraient eux-mêmes plus heureux, et ce ne serait pas aussi compliqué... Je ne sais pas que c'est compliqué, mais disons que quand vous sortez un disque aujourd'hui, vous sortez un disque aujourd'hui, on connaît le prix global, enfin le prix général d'un disque, c'est entre 20 et 25 euros, je crois, je n'achète pas beaucoup, en tout cas pas comme ça, je crois que c'est à peu près ça, et vous êtes confronté à des versions d'anthologie qui coûtent 5 euros. Donc c'est un combat qui n'est pas du tout égal. Moi, ce que je pense, et je le pense depuis longtemps, c'est que ces enregistrements que vous mentionnez de grands artistes qui sont même plus que ça, qui sont souvent de grandes figures, des génies, devraient garder leur part de mystère et devraient être, comment dirais-je, ne pas être en concurrence directe avec les disques qui sortent aujourd'hui, parce que la concurrence est totalement déloyale. Je pense que le disque n'a de valeur, n'a d'interprète que dans la prolongation, dans la continuité, ou j'allais dire en avant-goût de ce que l'on peut voir ou de ce que l'on peut entendre sur scène. Il y a aussi le disque live, moi, que j'affectionne particulièrement. J'espère que j'en ferai. J'espère que j'aurai des opportunités d'en faire. Il faudrait que ces disques gardent leur part de mystère et leur part de rareté. Voilà, ces disques d'anthologie dont vous parliez tout à l'heure.
En tout cas, Nicolas Dautricourt, pour ceux qui aiment le disque et qui veulent écouter un répertoire de Sibelius, parce que le disque a quand même une vertu aussi, c'est de faire pénétrer un répertoire que si on l'entend une fois, on ne peut pas apprécier forcément à sa juste valeur. Aussi, c'est une manière d'entrer dans un répertoire... ces pièces de Sibelius, il faut à mon avis les écouter plusieurs fois pour les aimer à la mesure de ce qu'elles méritent, comme des œuvres de Schubert ou d'autres. Mais en tout cas, il y a ce disque chez la Dolce Volta, et puis il y a ce concert le 7 décembre prochain. Donc je vous laisse juste annoncer, avant de se quitter, les noms des musiciens avec lesquels vous jouez donc sur ce disque, et puis les noms des musiciens avec lesquels vous serez le 7 décembre.
La différence, c'est qu'avec le disque, vous aurez besoin peut-être de 10 fois, de 10 écoutes, pour parvenir à l'apprivoiser. Au concert, ça vous séduira tout de suite. Donc vous vous déplacerez certes, mais il y aura un effet immédiat parce qu'il y a le cérémonial, il y a le rite, il y a tout plein de choses. Donc pour rester sur le concert, donc effectivement, Nicolas Dautricourt violon, il y aura donc Juho Pojonen, donc qui est mon ami pianiste finlandais, qui fait une magnifique carrière de par le monde et un petit peu plus discrète en France. On jouera donc tous les deux pour commencer une sonate de Bach, donc pour violon et clavier, qui jouera au piano, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On sera rejoint par le quatuor Capriccio, donc qui est un quatuor formé de membres des orchestres parisiens, d'éminents membres des orchestres parisiens, très bon quatuor, avec qui nous jouerons donc les humoresques de Sibelius et puis la petite suite opus 117 pour cordes. Il y aura une pause ensuite. Juho Pojonen donc jouera une sonate de Scriabine, la deuxième sonate de Scriabine. Et puis ensuite, Porgy and Bess Revisited, qui est donc avec deux amis, un vibraphoniste luxembourgeois, Pascal Schumacher, et puis Knut Erik Sundquist, donc un contrebassiste pardon, norvégien. Et puis le Sirba Octet, qui sont des copains, des amis, des gens que j'aime beaucoup et dont je suis totalement fan de la musique et de l'orientation, de leur qualité, de leur humilité aussi. Enfin, c'est un univers qui me plaît beaucoup, celui qu'ils défendent. Donc voilà, on est très heureux, ça va être la fête et on s'en réjouit.
Ben, on s'en réjouit avec vous et puis j'espère que j'aurai le plaisir de pouvoir vous réinviter à l'occasion de l'apparition d'un autre disque et de pouvoir discuter à nouveau des vertus et des vices de l'enregistrement et des enregistrements historiques. Peut-être que finalement dans l'avenir on fera des disques à 100 euros des interprètes du passé et à 10 euros des interprètes du présent.
Mais c'est exactement ce qu'il faudrait faire.
En attendant, je rappelle donc l'apparition de ce disque chez la Dolce Volta, consacré à Sibelius, ce concert le 7 décembre prochain au Ranelagh. Nicolas Dautricourt, merci beaucoup d'avoir été mon ami.
Merci à vous.